Esprit.
Entendre.
Esprit.
Comprendre.
Revue Esprit. Revue Esprit. Entendre le monde qui vient.
On va, on démarre.
Il n'y a jamais de voix favorable parce qu'il faut toujours au moins sauver l'honneur de la pensée, de la politique, et que donc, même quand tout est perdu, l'honneur n'est jamais perdu, et qu'il y a donc de ce point de vue-là toujours des raisons de tenir bon.
Intellectuel et sans pouvoir, et c'est en tant qu'il est inefficace qu'il peut servir.
The only thing which can help us, I think, is really to réfléchir. But I would say not thinking and not in a pas réfléchir, c'est plus dangereux encore.
Bouygues était un homme qui participait tout à fait aux débats et aux affrontements du monde.
Bienvenue dans À plusieurs voix, le podcast de la revue Esprit qui fait dialoguer ses textes d'hier avec ses auteurs et autrices d'aujourd'hui pour une conversation au présent sur la vie des idées. Dans cet épisode, Carole Desbarra, spécialiste de cinéma, choisit un texte de Roland Barthes, publié en 1959, et nous parle de théâtre, de l'image et de l'héros racinien.
Bonsoir. Ces murs pleins de livres. Chaque fois, ça me fait le même effet. Bien, je suis censée chercher mon livre, c'est ça. Est-ce que vous pouvez l'attraper pour moi? Parce que moi, je suis trop petite. C'est là, en haut, cette étagère. Novembre 59, l'édito c'est La paix possible, et en premier il y a l'héros racinien Roland Barthes.
Le sexe est un privilège tragique, dans la mesure où il est le premier attribut du conflit originel. Ce ne sont pas les sexes qui font le conflit, c'est le conflit qui définit les sexes. C'est donc l'aliénation qui constitue l'héros racinien. Il s'ensuit que le corps humain n'est pas traité en termes plastiques, mais en termes magiques. On l'a vu, l'âge ni la beauté n'ont ici aucune épaisseur. Le corps n'est jamais donné comme objet apollinien. L'apollinisme est pour Racine une sorte d'attribut canonique de la mort, où le corps devient statue, c'est-à-dire passé, glorifié, arrangé. Le corps racinien est essentiellement émoi, défection, désordre. Les vêtements, dont on sait qu'ils prolongent le corps d'une façon ambiguë, à la fois pour le masquer et pour l'afficher, ont à charge de théâtraliser l'état du corps. Ils pèsent s'il y a faute, ils se défont s'il y a désarroi. Le geste implicite ici, c'est la mise à nu. Phèdre, Bérénice, Junie. La démonstration simultanée de la faute et de la séduction car, chez Racine, le désordre charnel est toujours d'une certaine manière chantage, tentative d'apitoiement parfois poussée jusqu'à la provocation sadique. Telle est la fonction implicite de tous les troubles physiques, si abondamment notés par Racine. La rougeur, la pâleur, la succession brusque de l'une et de l'autre, les soupirs, les pleurs, enfin, dont on sait le pouvoir érotique, il s'agit toujours d'une réalité ambiguë, à la fois expression et acte, refuge et chantage. Bref, le désordre racinien est essentiellement un signe, c'est-à-dire un signal et une comination.
Ce texte, en fait, qui est publié en 59, moi, je le découvre en 1966. Je suis une toute jeune étudiante, fauchée comme il se doit. Je passe devant un bouquiniste et je vois la revue Esprit en vente chez le bouquiniste et je me l'achète parce qu'il y a un texte de Barthes et que je sens que Barthes, comment dire, c'est fait pour moi. Barthes, c'est à la fois un critique, c'est un sémiologue et pour moi, c'est un écrivain. Toute la dernière partie de son œuvre, c'est vraiment de l'écriture, si on veut, autobiographique, mais surtout une écriture qui respecte la littérature. Ces pages, elles ont été éditées, extraites de une présentation du théâtre racinien dans un sur-racine qui va être fait au Club du théâtre français du Livre. Et ce bloc qu'est le texte paru dans Esprit, va être réutilisé quelques années plus tard, en 1963, dans le livre que Barthes va consacrer uniquement à Racine, qui s'appelle « Sur Racine ». Barthes écrit sur Racine, d'une part parce que ça lui tient vraiment à cœur, mais d'autre part parce que je crois qu'il a senti à quel point il y avait un enjeu autour de la réputation classique de Racine. Et ce qu'il fait dans ce texte, c'est, je ne dirais pas dépoussiérer, c'est même pas ça, c'est exploser l'image classique de Racine, d'un Racine qui nous fait une œuvre transparente, éthérée, avec des alexandrins absolument parfaits, dont on dit qu'ils sont la quintessence de la langue française. Ce n'est pas ça qui l'intéresse. Et ça, c'est extraordinaire à l'époque. C'est vraiment, au sens étymologique du terme, extraordinaire. Et c'est ce qui explique que le texte a eu une tellement grande force. Et moi, je suis heureuse qu'il ait d'abord été publié dans Esprit, justement, parce que c'est un texte qui ouvre des possibilités, qui n'ouvre pas simplement aux outils du formalisme, mais à ces outils, d'une certaine manière, contredits par des approches plus sensuelles, plus personnelles, plus émotionnelles de Barthes. Et cette espèce de lutte interne dans le texte entre deux tentations est totalement logique en 1959. C'est une époque dans laquelle les universitaires sont pris dans une doxa qui les bloque totalement. Pour parler de ça, Barthes parle de la brique. Il dit que le langage universitaire, c'est une brique. Et qu'effectivement, essayer d'entendre la langue, c'est apporter un souffle et une ouverture. C'est ce qu'il commence à faire dans ce texte.
L'éros racinien ne s'exprime jamais qu'à travers le récit. L'imagination est toujours rétrospective et le souvenir a toujours l'acuité d'une image. Voilà le protocole qui règle l'échange du réel et de l'irréel. La naissance de l'amour est rappelée comme une véritable scène. Le souvenir est si bien ordonné qu'il est parfaitement disponible. On peut le rappeler à loisir, avec la plus grande chance d'efficacité. Ainsi, Néron revit le moment où il est devenu amoureux de Junie. Eriphile, celui où Achille l'a séduite. Andromaque, celui où Pyrrhus s'est offert à sa haine, puisque la haine ne suit pas d'autre procès que l'amour. Bérénice revoit avec un trouble amoureux l'apothéose de Titus. Phèdre s'émeut de retrouver dans Hippolyte l'image de Thésée. Il y a là une sorte de transe. Le passé redevient présent sans cesser pourtant d'être organisé comme un souvenir. Le sujet vit la scène sans être submergé ni déçu par elle. La rhétorique classique possédait une figure pour exprimer cette imagination du passé. C'est l'hypotypose. Figure-toi, Pyrrhus, les yeux étincelants. Un traité de l'époque dit que dans l'hypotypose, l'image tient lieu de la chose. On ne peut mieux définir le fantasme. Ces scènes érotiques sont en effet de véritables fantasmes, rappelés pour alimenter le plaisir ou l'aigreur, et soumis à tout un protocole de répétition. Le théâtre racinien connaît d'ailleurs un état encore plus explicite du fantasme érotique. C'est le rêve. Le songe d'Athalie est, dans la lettre, une prémonition. Mythiquement, c'est une rétrospection. Athalie ne fait que revivre l'éros qui la lie au jeune enfant, c'est-à-dire, une fois de plus, la scène où elle l'a vue pour la première fois. En un mot, dans l'érotique racinienne, le réel est sans cesse déçu et l'image gonflée.
L'extrait que nous venons d'entendre présente un caractère nodal dans le texte parce que, à la fois, il parle des outils classiques, l'hypotypose, qui donne cette idée qu'effectivement l'image tient lieu de la chose, mais en même temps il relie ça à la scène fantasmatique de la psychanalyse. Et à dire que l'image c'est la chose, c'est à la fois installer l'idée que le personnage sur scène est possédé par cette image et que nous, spectateurs, en contagion, nous sommes possédés par ce récit. Bien évidemment, chez Racine, on ne verra jamais un geste osé. Ce qui est osé, ce qui est érotique, c'est dans la posture, c'est dans la relation de pouvoir, c'est dans la relation de désir. Et ça n'est jamais dans les gestes qui seraient, par exemple, dès le XVIIIe siècle, présents sur la scène du théâtre. Donc, c'est dans cette espèce de retenue physique, mais qui en même temps déborde, parce que le corps trahit l'émotion, et dans cette espèce de dialectique introduite entre l'image, le récit, la langue et le corps. Ça, si vous voulez, c'est tout sauf ce qui se disait à l'époque sur Racine. À tel point que ça fait un scandale, comment dire, Raymond Picard, un universitaire bontain, a suscité des prises de parti pour ou contre Barthes, et cette querelle sorbonnarde a déclenché le fait qu'on découvre qu'on pouvait parler des grands textes autrement, qu'on pouvait en parler par le corps, qu'on pouvait en parler par les signes, qu'on pouvait parler autrement que parce que Barthes, qui découvrait ça avec tout le monde universitaire, appelait le dénoté, c'est-à-dire ce qu'il y a dans la phrase qui est un sens que l'on peut comprendre tous au même niveau. Et là, il y a eu une ouverture, il y a eu rupture, il y a eu fracture. C'est intéressant de savoir que ça a été une fracture, mais ça n'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce qui est dit sur les corps, les vêtements, les larmes, les sécrétions, le désordre qui est tout sauf la pureté racinienne que l'université s'acharne à prouver. Et ce qui est aussi, si vous êtes barthésien, absolument passionnant, c'est de se dire que Barthes, en sous cet extrait-là, met en place quelque chose qu'il va redévelopper plus tard, dans les fragments d'un discours amoureux, dont j'aimerais vous lire un petit extrait, si vous le permettez. Voici comment Barthes décrit Werther, puisque dans les fragments du discours amoureux, il s'est beaucoup appuyé sur les souffrances du jeune Werther. Descendant de voiture, Werther voit pour la première fois Charlotte, dont il s'éprend. Encadrée par la porte de sa maison, elle coupe des tartines aux enfants, scène célèbre, souvent commentée. Nous aimons d'abord un tableau, car il faut au coup de foudre le signe même de sa soudaineté, ce qui me fait irresponsable, soumis à la fatalité, emporté, ravi. Et de tous les arrangements d'objets, c'est le tableau qui semble le mieux se voir pour la première fois. Un rideau se déchire, ce qui n'avait encore jamais été vu et découvert dans son entier, et dès lors dévoré des yeux. L'immédiat vaut pour le plein. Je suis initié. Le tableau consacre l'objet que je vais aimer. Dans cet éros racinien, dans le texte publié dans Esprit, il explique bien qu'il y a deux types d'éros. Il y a un éros sororal, presque, qui serait lié au fait qu'on a vécu longtemps proche de quelqu'un et que du coup, il y a une espèce de proximité qui déclenche une sorte d'amour. Et puis, il y a l'amour qui arrive à première vue et qui est fracassant, qui fait qu'il y a un avant et un après, ce qu'on a pu appeler un coup de foudre, et c'est de cet amour-là et de cet éros-là dont il parle dans son article. Et c'est de cela qu'il parlait quand il parlait dans le texte de 59, d'effectivement cette première vue. Et comment la référence picturale qui court à travers tout le texte, et à un moment donné il dit que même penser à un tableau de Rembrandt, est quelque chose qui permet de saisir l'émoi, le choc de la première vision. Et c'est peut-être pour ça que ce texte nous touche tellement, parce que c'est quelque chose qu'on peut dire pour les films. Et l'encadrement de Charlotte par le chambranle de la porte, c'est quelque chose qu'on voit au cinéma. Quand un réalisateur veut mettre en avant un personnage, et qu'il le met, par exemple, comme Douglas Sirk, dans un miroir, ou bien, effectivement, comme chez Romère, dans des encadrements de fenêtres, eh bien, c'est un héritage, je trouve, de ce que dit Barthes, ou peut-être pas direct, bien évidemment, mais en tout cas, on y trouve la même émotion. Et c'est une façon de faire que ce ne soit pas le « je t'aime » qui compte, mais ce que les signes visuels ou corporelle ou linguistique, nous permettent de sentir émotionnellement. C'est une pensée sensible que nous avons, nous, en tant que spectateurs, et que décrit Barthes, sans le dire, à cette époque-là, avec ces mots-là. mais c'est ce qu'il met en prémisse de ce que seront les fragments du discours amoureux.
On comprend pourquoi il y a chez Racine ce que l'on a pu appeler un fétichisme des yeux. Les yeux sont par nature de la lumière offerte à l'ombre, ternie par la prison, ennuagée par les larmes. L'état parfait du ténébroso racinien, ce sont des yeux en larmes élevés vers le ciel. C'est là un geste qui a été souvent traité par les peintres comme symbole de l'innocence martyrisée. Dans Racine, il est sans doute cela, mais il résume surtout un sens personnel de la substance. Non seulement la lumière s'y purifie d'eau, perd de son éclat, s'étale, devient nappe heureuse, mais le mouvement ascensionnel lui-même indique peut-être moins une sublimation qu'un souvenir. Celui de la terre, de l'obscurité dont ses yeux sont partis. On voit pourquoi l'image ainsi constituée a un pouvoir de traumatisme, extérieur au héros à titre de souvenir. Elle lui représente le conflit où il est engagé comme objet. Le ténébroso racinien constitue une véritable photogénie, non seulement parce que l'objet y est purifié de ses éléments inertes et que tout en lui brille ou s'éteint, c'est-à-dire signifie, mais encore parce que, donné comme un tableau, il dédouble l'acteur tyran ou l'acteur victime, fait de lui un spectateur, lui permet de recommencer sans fin devant lui-même l'acte sadique ou masochiste. C'est ce dédoublement qui fait toute l'érotique racinienne.
Ce texte résonne aujourd'hui parce que la dernière partie où Barthes analyse le dédoublement entre l'acteur et la victime, mais aussi surtout entre l'acteur, le personnage et le spectateur, est extraordinairement moderne. C'est-à-dire qu'il ne considère pas le texte comme figé. Et il donne toute sa place au spectateur qui va participer à la création, puisqu'il va venir avec son horizon d'attente, il, le spectateur, va venir, ou le lecteur va venir avec son horizon d'attente, avec sa culture, avec ce qu'il apporte dans la perception de l'œuvre, qui n'est pas forcément ce que l'auteur a mis. Il faut savoir que Barthes, avant ce texte-là, avait écrit un article qui s'appelait « La mort de l'auteur ». Et ce texte avait fait, alors là aussi, un scandale absolu, c'est-à-dire dire simplement que l'auteur ne peut pas être responsable de la totalité du sens ni de l'émotion qui se trouve dans le texte qu'il a créé. Ce qui veut donc dire que le spectateur est en mesure d'y apporter quelque chose. C'est absolument contemporain. Les sciences cognitives vont dans ce sens-là. Aujourd'hui, lorsque on pense à la façon dont la fiction, par exemple, nous apporte un savoir, dont aujourd'hui on se dit que passer par l'œuvre d'art permet de comprendre des éléments rationnels via une pensée affective, c'est déjà en germe là. Il y a dans ce texte-là un moment dans lequel l'écrivain Barthes se lâche. C'est-à-dire un moment dans lequel il prend une envolée qui dépasse la critique. Je voudrais vous le relire. C'est au moment où il parle des larmes. Non seulement la lumière s'y purifie d'eau, perd de son éclat, s'étale, devient napereuse, mais le mouvement ascensionnel lui-même indique peut-être moins une sublimation qu'un souvenir, celui de la terre, de l'obscurité dont ses yeux sont partis. C'est un mouvement qui est ici saisi dans son entretien même, en sorte qu'il représente simultanément par un paradoxe précieux les deux termes du conflit et du plaisir. C'est une phrase d'une construction classique magnifique, avec une prothèse très longue et une apodose assez courte, c'est-à-dire ça monte et ça redescend plus court. Et en fait, il y a cette montée lyrique qui n'est pas nécessaire dans une critique, mais qui est le Barthes qui écrit et qui a plaisir à décrire ce que sont les larmes. Et ça, c'est quelque chose qui, à la fois, est très littéraire, utilisant la technique de critique littéraire, mais en même temps, pour nous qui le lisons, c'est très émotionnel, très sensuel, et ça parle de Racine à travers le fait de nous faire vibrer.
Vous pouvez pouvez retrouver ce texte sur notre site internet esprit.presse.fr. C'était À plusieurs voix, un podcast de la revue Esprit, écrit et préparé par Anne Dugin et Rémi Baille, réalisé par Louise André. Lecture, Rémi Baille. Musique originale, Valentin Fernandez. Esprit est une revue indépendante. Pour la soutenir, abonnez-vous.